Bonsoir à vous, c'est Supersonic en public. Nous sommes avec le collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne. Ouais, et le collège de la Vallée à Avon et le lycée Jean Villard de Meaux. Et c'est la restitution du concours d'art radiophonique Radio Ratorio. Très spéciale, enregistrée au studio 106 de la Maison de la Radio. Et pour la première fois dans l'histoire, on va dire hein, que c'est la première fois, eh bien, on mélange le public et les invités. Le public, c'est les invités, c'est le public. Et en plus, ils ont déjà tous et toutes gagné le concours Radio Ratorio. Bravo, bravo à tous, bravo à toutes. Il y a aussi quelques personnes invitées qui ne sont pas dans la salle, mais sur la petite scène du studio 106. C'est vous et c'est à suivre. C'est le troisième concours d'art radiophonique de création à l'usage des collégiens, des lycéens et de leurs enseignants. Ça s'appelle Radio Ratorio et c'est organisé donc pour la troisième fois. Et je crois que ça fait 6 ans, puisque c'est tous les 2 ans ou peut-être 5 ans, enfin je ne sais plus, les intervalles, les bâtons. C'est donc organisé par la Muse en Circuit, qui est un centre de création musicale, centre national. La Muse en Circuit, centre national de création musicale, représenté pour commencer cette émission par vous, Sébastien Béranger. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Thomas.
Vous êtes compositeur et vous avez coordonné ce concours Radio Ratorio. Est-ce qu'on peut dire que c'est un concours assez unique en son genre? Moi, je le crois. Est-ce que vous confirmez?
Je le confirme. Oui, je le confirme. Enfin, a priori, j'ai pas trouvé effectivement d'autres approches du même type, au moins en France. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à la Muse en Circuit. Depuis de nombreuses années, on développe l'art radiophonique et d'une manière générale les musiques électroacoustiques sous toutes leurs formes, et pouvoir permettre à des classes de développer des projets un peu d'envergure, accompagnés par des compositeurs tout au long d'une année. Voilà, c'est quelque chose qui nous est cher. On est ravis de pouvoir présenter voilà cette troisième édition.
Il faut dire que ce qui se passe à la Muse en Circuit a plusieurs volets, faut le rappeler. Il y a effectivement cette question de la transmission, ça va être l'objet un peu de cette émission ce soir dans Supersonic, la transmission d'une forme d'art radiophonique. Il y a la question de la production, il y a des résidences, des studios à la Muse en Circuit, et il y a un festival qui vient de se terminer, c'est le festival Extension.
Et oui, il s'est fini la semaine dernière, effectivement.
Voilà, on est un peu la queue de la comète de ce festival, puisque Radio Ratorio en fait partie, et puis c'est un lieu de recherche sur une forme de musique de demain, on peut dire ça aussi comme ça.
Oui, ou même de musique d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, tant qu'à faire.
Oui, tant qu'à faire. Autant que le public en profite dès maintenant.
Que ça se passe maintenant, on va s'en rendre compte parce qu'il va y avoir trois pièces, trois lauréats de ce concours Radio Ratorio. Peut-être dire un mot sur ce que c'est que l'art radiophonique, voilà, concours d'art radiophonique. Qu'est-ce que c'est ?
Ben, l'idée de l'art radiophonique et de ce concours, qui est très largement aidé, et j'en profite effectivement pour remercier les trois académies franciliennes qui nous aident énormément, et l'Ariam Île-de-France qui finance aussi ce concours, c'était de montrer aux plus jeunes d'entre nous, en fait, ce qu'est et ce que peut être la radio. C'est-à-dire, comment développer un discours qui soit au-delà du musical, au-delà du journalistique, vers une forme d'écoute qui soit un peu alternative sur des formes musicales ou sur des formes alternatives qui puissent être un peu plus longues, de 8-10 minutes, ce qu'on va entendre ce soir en restitution.
Et en le proposant donc, cette pratique accompagnée par des compositeurs, en proposant donc à un public jeune, et un public qui a entre, quoi, ce soir, on va entendre
entre
des œuvres de
11 et 18 ans, voilà.
Voilà, mais c'est pas mal pour apprendre ce que ça peut être effectivement l'art radiophonique. On peut parler de Hörspiel.
Du moins, c'est comme ça que ça a été développé à la Muse en Circuit par son fondateur, Luc Ferrari. C'est-à-dire, on est vraiment sur une approche narrative du musical, très issu effectivement de cette pensée allemande Keller Spiel.
Voilà, ce croisement à la fois des sons du réel et de la musique au croisement de différentes formes, d'ailleurs d'expression sonore. Il faut expliquer pourquoi ce soir tout le monde a gagné. Hein. C'est pas l'école des fans, mais tout le monde a gagné quand même, parce que le concours, il était aussi en amont et pendant une année scolaire, il y a eu la fabrication des pièces qu'on va entendre.
Oui, alors en fait, effectivement, on appelle ça un concours parce que bah voilà, on est malheureusement limité par nos moyens, mais en fait, c'est un grand appel à projet, notamment pour les équipes pédagogiques des trois académies franciliennes, où les enseignants nous proposent leurs projets. Mmh. Et après, un jury très bien composé, dont vous.
Oui, il faut le dire, effectivement.
Ouais, faut le dire.
Tout ça a été fomenté depuis quelques mois.
On choisit trois projets qui vont être suivis pendant toute une année. Mmh. Et donc, effectivement, les lauréats, en fait, c'est pas un premier, deuxième, troisième, c'est trois projets qui sont suivis tout au long d'une année pour pouvoir réaliser cette œuvre artistique d'une dizaine de minutes à la fin et qu'on restitue en fin d'année. Et en l'occurrence, dans votre émission.
Et en l'occurrence, cette année, ici. Donc, on l'a dit, c'est tous les deux ans. En fait, si je me suis un peu trompé, c'était il y a 4 ans. Donc, la première fois, c'était en 2012. Il y a eu une deuxième édition en 2014. Et donc, c'est la troisième. Et la première œuvre qu'on va écouter est une œuvre signée, fabriquée au Collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne, donc dans les Hauts-de-Seine. Et nous avons là Madame Perrico, professeure d'éducation musicale, à côté de Madame Durieux, professeure de français. Bonsoir à toutes les deux. Vous partagez un micro. Bonsoir.
Bonsoir, Thomas.
Expliquez-nous, avant qu'on l'écoute, c'est une œuvre sur support, comme on dit. L'histoire, peut-être l'origine de Oratopia, qui est le titre de cette pièce, qui a été fabriquée dans le compagnonnage du compositeur Marco Marini, qui est là aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a une radio web. Où il y a une radio, les web, oui, il y a une, en tout cas, il y a une radio au Collège Georges Pompidou.
Effectivement, on a une web radio au Collège Georges Pompidou. Donc,
Pompidou, c'est ça?
Exactement. Pompidou. L'approche radiophonique de l'expression orale est un moyen aussi pour nos élèves de pratiquer la maîtrise de la langue, mmh. qui est un grand axe de travail de notre établissement. Et on a davantage orienté ce projet vers une classe de sixième. Ouais. Donc, nous sommes extrêmement satisfaits parce que ce sont de jeunes oreilles mmh. et des oreilles qui sont disposées à créer beaucoup plus peut-être que de plus anciennes. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que dans certaines salles, eh bien, on manque de jeunesse. Mmh. Donc, former ces jeunes à l'écoute, à la pratique, à l'échange, au débat.
Oui, parce que c'est quelque chose de très politique, cette pièce. On va s'en rendre compte, mais il y a un désir même de débat, j'ai l'impression.
Exactement. Et là, je pense que Madame Durieux, ma collègue de lettres, sera plus à même de développer ce point-là.
Eh bien, nous lui passons la parole.
L'idée était de créer, en fait, une cité grecque antique idéale avec les élèves. Voilà. Donc, ancrée au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais libre à eux de choisir leurs règles, leurs lois et leurs personnages.
Eh bien, on va écouter ça alors. Ça s'appelle Oratopia.
Le roi qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage.
Et plus que l'air marin, la douceur angevine.
Qui conquit la toison? Plein d'usage et raison. Et puis retourner, plein d'usage et raison. entre ses parents le reste de son âge. Plus que les morts pour me plier l'ardoise fine. Plus que l'air marin, la douceur angevine. Plus mon petit liré que le mont Palatin.
Astéros.
Carphan.
Plutos.
Gorgon.
Bacillus.
Théa.
Ogenus.
Iralos.
Megisti.
Katara.
Chias Despionus.
Caris.
Aneros.
Athanatos Prophetis.
Gimba.
Xisis.
Eleutera.
Dans notre cité grecque, nous avons décidé que les filles avaient le droit de participer à la vie politique de la cité. Elles ont aussi le droit de choisir leur époux tel elles le voudront. Elles auront le droit de sortir. Elles ne seront pas enfermées. Elles ne seront pas chargées des tâches ménagères. Les garçons participeront de temps en temps aux tâches ménagères comme les filles. Nous décidons aussi que dans notre cité, il n'y aura pas d'esclaves. Il y aura plutôt des bonnes à tout faire qu'on ne maltraitera point. Tous les enfants, filles ou garçons, auront tous le droit d'aller à l'école pour développer leur intelligence et s'investir. Les filles auront le droit de participer aux activités sportives. Les filles ou garçons, hommes ou femmes, ont tous les droits de participer aux Jeux Olympiques. Les femmes doivent se couper les pointes chaque semaine. Les hommes doivent se couper les cheveux chaque semaine. La longueur de leurs cheveux mesurera 15 mm maximum.
Toute personne en retard ne sera pas obligée de payer une amende. Les habitants d'Oratopia se réuniront deux fois par mois à l'Ecclésia. Il y a trois stratèges qui se font élire. Vote secret, exemple cabine, etc. Les juges doivent avoir une éducation. Le bannissement est interdit car c'est injuste.
Tu pars en prison, mais de se faire bannir, c'est trop grave pour moi.
De se faire bannir d'une cité, enfin, pour moi, c'est injuste de bannir des gens comme ça.
Et c'est pas parce que on n'a pas la même religion qu'on est différent. Qu'on ait la même religion ou pas, bah, on est tous pareils. Il n'y a pas de différence.
Moi, franchement, je suis pas d'accord là pour ceux qui disent les noirs, je sais pas quoi. En fait, noir et blanc, c'est pareil. On est tous de la même race, on est tous humains. Donc je comprends pas, juste c'est notre couleur de peau qui change. Donc je comprends pas pourquoi on dit les noirs et les blancs. C'est juste ça que je comprends pas.
À Oratopia, tout le monde a son mot à dire, même les femmes et les métèques. À Oratopia, il n'y a plus d'esclaves, tout le monde peut être candidat. Il faut des stratèges qui commandent la cité et des juges quand il fait des études diplômées. Il y a aussi une élection 4 fois par mois, mais même s'il y a des retards, il n'y aura pas d'amende.
Les femmes ne sont pas soumises aux hommes. Les hommes, comme les femmes, ont droit au ménage. Le mariage est accepté à partir de 18 ans. Le mariage pour tous est accepté. Le droit de vote est à partir de 18 ans. Le droit de vote est aussi accepté aux femmes qu'aux hommes.
Donc les femmes, ils ont le droit de voter comme nous, parce qu'avant, c'était les hommes qui devaient partir voter, sauf les
enfants,
femmes.
Les femmes n'ont pas le droit de voter, et je trouve ça aussi injuste, parce que normalement, c'est les grands, c'est vrai qu'ils ont le droit de voter, mais les femmes ont aussi leur mot à dire dans leur cité. Le mariage pour tous est accepté.
Pour répondre, alors moi j'ai voté pour. Enfin, j'ai donné l'idée parce que ça me tenait à cœur, puisque ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et déjà, ils ont le droit de se marier, puisque si ils veulent être ensemble, rien ne leur empêche de ne pas être ensemble. À part les gens qui vont aller les dénigrer pour dire ouais, vous êtes gay, mais c'est pas bien. Parce qu'ils ont tous les droits que tout le monde, en fait. C'est ça que je veux dire. Et s'ils ont envie de se marier, bah, c'est leur droit.
Qui a été créé, bah, c'est pour que les différents sexes, justement, ils se mélangent et qu'il n'y a pas deux sexes pareils qui vont se rassembler.
Alors, moi, je suis entièrement d'accord. Donc, nos ancêtres se sont battus pour que tous les gens de couleur, les handicapés, ceux qui ont des religions, voilà, qui ne se fassent pas, voilà, victimisés à cause de leur choix, voilà. Et après il faut assumer. Et aussi pour dire, donc moi je dis que par exemple si le propos est grave, on lui met la peine de prison, et si le propos n'est pas très grave, on lui met un travail d'intérêt général, mais gros quand même, puisque c'est pas bien.
Voilà, Oratopia, dans son intégralité, signée des sixièmes du collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne, un des trois lauréats du concours Radio Oratorio 2016. Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Ce soir, Supersonique se fabrique au studio 106 de la Maison de la Radio, en public, avec l'intégralité justement de ceux qui ont participé et fabriqué des pièces dans le cadre de ce concours Radio Oratorio et qui l'ont donc remporté. Il y a trois écoutes ce soir, c'était la première. Et parmi les voix qu'on a entendues et ceux qui ont produit cette Oratopia, il y avait celle de Yuri et Fanta qui sont là juste à côté de moi. Rebonsoir à tous les deux. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un rêve en quelque sorte, non? C'est le rêve d'une société idéale, d'une cité idéale, c'est ça, non, Fanta?
C'est exactement ça.
Ça a été facile à imaginer?
Ça nous a pris du temps, mais le résultat, il est là.
Oui, je confirme, il est là, le résultat. Mais comment ça s'est passé, justement? Ça a pris du temps, pourquoi? Parce qu'il a fallu discuter, il a fallu imaginer, il a fallu échanger.
Oui. Au début, on a... Le professeur nous a donné des noms. Non, on a trouvé le nom de la cité.
Mmh. Ça veut dire quoi, Oratopia?
Ora, ça veut dire parler. Et Topia, c'est le lieu. Mmh. Donc, c'est le lieu pour parler.
Et ensuite, donc, il a fallu imaginer ce qu'il y avait dedans, en fait.
Oui, voilà. Ensuite, la professeure, Madame Durieux, ici présente.
Professeure de français.
Voilà, nous a... attribuer à chacun un rôle, mais on a fait notre portrait, c'est-à-dire que c'est nous qui avons décidé comment notre caractère, notre façon d'être. Et en fait, pour trouver le nom, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné la signification de notre nom en français, et Madame Durieux l'a traduit en grec. Et donc, ce qui a donné pour moi, par exemple, Fanta, ça signifie déesse, et déesse en grec veut dire Théa.
Ouais, donc il y a un travail de traduction, et puis aussi d'imaginer d'autres temps, d'autres époques. Alors Yuri, moi j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu as préféré pendant cette longue période pour imaginer et fabriquer cette pièce sonore qui dure 13 minutes, Oratopia? Qu'est-ce que tu as préféré? À quel moment tu as préféré être? Au moment de l'écoute, au tout début, en plein milieu? Au moment des débats? On entend des débats à un moment donné, hein. Vous avez discuté entre vous, j'ai l'impression.
Moi j'ai préféré vers la fin. Ouais. Quand ils ont commencé à s'exprimer et à donner les lois. Pour moi, c'était bien. Ils ont bien parlé.
Ouais. Et comment tu trouves le résultat? Tu peux tout dire. Hein. Tu peux dire c'est bizarre, tu peux dire c'est beau, tu peux dire c'est beau et bizarre.
C'est bien.
C'est bien?
Oui.
Voilà. Bon. Mais c'est vrai que c'est bien, Marco Marini. Alors comment vous êtes un compositeur, on peut dire compagnon de route de la Muse en circuit, hein, qui organise ce radio oratorio, ce concours d'art radiophonique pour les collégiens et les lycéens. Comment vous travaillez avec ces classes, en particulier des classes plutôt jeunes cette fois, puisque ce sont des sixièmes?
Oui, les sixièmes sont très jeunes. C'est vrai que je travaille avec la Muse en circuit depuis 8 années maintenant, donc c'est le 3e radio oratorio. Alors, Radio Oratorio est un peu un travail à part. Je dirais que c'est une expérience qui est très très riche, puisque c'est une vraie rencontre avec d'abord une équipe pédagogique qui a mis au point un projet et donc qui est extrêmement motivée pour le conduire. Et ensuite, une rencontre avec la classe et puis les jeunes avec qui, en fait, on va se mettre très très vite au travail.
À raison d'un rythme, quel rythme de rencontre
Je dirais pour aller très vite. En fait, moi, je suis intervenu donc 2 fois au collège Georges Pompidou pour faire des prises de son, donc avec tous les élèves. C'est-à-dire que tous les matériaux qu'on entend ont été fabriqués par eux, enregistrés par eux. Ensuite, il y a eu un rendez-vous à la Muse en circuit pour travailler sur le matériel pédagogique de la Muse, où là, les enfants se sont mis en binôme et ont commencé à travailler sur des petites miniatures. Mmh. Et ensuite, j'ai fait installer un autre logiciel au collège, et puis on s'est vu 3 fois. Donc, pour continuer à travailler sur soit des articulations, soit carrément des toutes petites pièces miniatures. Et donc j'ai récupéré un peu toutes les pièces du puzzle, et puis parce que la question de la forme, en fait, c'est la question la plus abstraite et puis la plus compliquée, en fait, à aborder. Ceci dit, Madame Péricot a bien préparé le terrain, puisque la forme telle qu'elle a été construite est une forme qui a été décidée par la classe, mmh. c'est-à-dire une forme en trois mouvements, avec la cité antique, la leur actuelle et celle rêvée. Quoi.
Et celle rêvée, et ça ouais. se termine par cette ouverture vers la cité rêvée. Alors, on va passer à la partie suivante, et comme Sébastien Béranger est encore à la table, et c'est tant mieux, je m'adresser cette fois au compositeur Sébastien Béranger, pas seulement au responsable de la pédagogie et de la recherche à la mise en circuit. Sébastien Béranger, vous avez accompagné, vous, en tant que compositeur, le travail du Collège de la Vallée à Avon. Avon, ça se trouve en Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas.
C'est juste à côté de Fontainebleau.
Voilà, et vous avez accompagné des élèves de 3e qui produisent quelque chose dont le titre est Romantic Band et qui a à voir avec le cinéma.
Non, juste romantique, en fait.
Ouais, ah, bon, juste romantique.
Un jeu de mots qui, forcément, à la radio, ne donnera pas grand-chose entre la Rome antique et le romantisme voilà, romantique.
Oui, parce qu'il y a quelque chose d'italien, de très italien.
Oui, parce qu'en fait, ce projet croisait plein d'envies de la part de l'équipe enseignante, qui vous racontera ça bien mieux que moi, et notamment, effectivement, s'appuyait aussi sur un voyage à Rome que les élèves ont réalisé en mars, et ce qui leur a permis de faire plein de prises de son de paysages sonores romains qu'ils ont intégrés au projet.
C'est un mélange, si je ne me trompe pas, en tout cas pour ce soir, d'une bande-son sur support et d'une performance, une performance sur scène.
Oui, c'est une envie qu'on avait pour ce troisième concours d'amener l'art radiophonique à pouvoir permettre aux équipes d'intégrer la notion de performance.
Et la scène ce soir et cette proposition se fait donc dans le studio 106 où on se trouve pour Supersonic. Je vais donc demander aux membres de ces troisièmes du Collège de la Vallée à Avon de s'installer. On va les écouter et ensuite on va en parler. Oula, il y a plein de monde qui se lève d'un coup. C'est pas pour partir, hein ? Oui, non, c'est pour s'installer sur la scène, d'accord.
Vous écoutez Supersonic de Thomas Baumgartner sur France Culture.
Thank you. surprenante les fera basculer dans l'Antiquité et bouleversera leur vie à jamais.
Romantique, les troisièmes du collège La Vallée à Avon. Bravo à vous. Et on va demander à deux des choristes, ah oui, c'était une chorale aussi, on va leur demander de nous rejoindre, ainsi qu'à Suzy Wussbaumer, qui est professeure de lettres classiques, et Pascal Rippé, professeure d'éducation musicale et chant chorale, et vous avez présidé toutes les deux à cette composition, donc en compagnie de Sébastien Béranger. Ce qu'on comprend, c'est que c'est une bande-annonce, en fait. On vient d'entendre une bande-annonce de 7 minutes d'un film rêvé, Pascal Rippé.
Oui, tout à fait. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir.
On est parti sur cette idée d'un scénario au départ et d'une bande-son, en effet, d'un film qui n'existerait pas, d'un film virtuel que nous avons conçu avec les élèves. Et nous avons travaillé donc sur cette musique qui accompagnerait ce film.
Alors, le point de départ, l'idée de départ, j'ai pu voir, l'idée était très, très narrative. C'était une histoire était véritablement racontée. On l'a entendu, et puis il y a quand même le son à l'intérieur qui, parfois, se remplace ou complète les mots.
Alors effectivement, on est parti de l'écriture d'un synopsis que les élèves ont entièrement conçu. Mmh. On est passé beaucoup par l'écriture, ils ont écrit des scènes, ils ont écrit des dialogues pour pouvoir imaginer les sons, quels sont enregistrés, comment le faire. Et effectivement, la musique vient faire cette narration à la place des mots au final.
Sébastien Béranger, est-ce qu'il a fallu amoindrir le texte pour pouvoir laisser la place au son ?
Oui, vraiment. Ouais. En fait, même au départ, le travail, ce qui était assez drôle, on va dire ça comme ça, c'était plutôt de décomposer plutôt que de composer.
Ouais.
C'est vrai que les élèves avaient plein d'idées et un scénario qui était assez génial, mais qui était très descriptif et ce qui se prêtait assez mal à l'exercice. Donc l'idée, c'était plutôt de prendre après ces petites scènes isolément et puis de les amener à un univers sonore et après de recomposer tout ça en petites briques comme des sortes de Lego pour reconstruire une histoire qui, au final, d'ailleurs, est assez proche de ce qu'il pouvait avoir à l'idée au départ.
Alors, trois élèves choristes viennent de s'installer à la table. J'ai commencé par le garçon. Il n'y a pas beaucoup de garçons dans cette chorale. Vous avez un rôle, j'ai remarqué, particulier à un moment donné, vous vous retournez vers vos collègues comme une forme de chef de chœur. J'ai même vu que vous regardiez votre montre. Alors, j'espère, maintenant que je pose la question, que c'est pour une histoire de timing et pas pour une histoire d'horaire. Vous êtes un peu à un moment donné, vous partagez la direction, c'est ça, de
la chorale. En fait, je suis censé donner le départ pour les phrases qu'on va dire. Mm-hmm. Et la montre, c'était pour essayer de pas me tromper quand on doit partir.
Alors, j'ai posé une question à votre collègue qui est à votre gauche. Je connais pas les prénoms.
Vous venez de... Oui, moi, c'est Charlotte.
Charlotte, cette année où c'était une année de composition, finalement, de cette pièce-là, qu'est-ce que vous en retenez, vous ?
On a appris plein de choses. Ouais. Il y a plein de choses qu'on connaissait pas, les manières d'enregistrer, les manières de parler devant un micro. Il a fallu beaucoup s'entraîner.
Et à votre gauche, donc, il y a
Chiara,
donc vous faites partie aussi de cette chorale, mais c'est une chorale parlée, alors c'est quand même bizarre ça, non ?
On a eu l'idée en même temps de narrer l'histoire et pas l'intégrer directement dans la bande-son. Mm-hmm. Moi, sincèrement, je trouve ça plus sympathique de parler au lieu d'écouter nous-mêmes qui parlons.
Il y a cette particularité qui était d'aller chercher du son du réel, enfin d'enregistrer à l'extérieur. Lors d'un voyage scolaire, c'est ça ?
Oui, en fait, notre histoire devait se passer à Rome. Mm-hmm. Du coup, nous sommes allés sur les lieux où les personnages auraient dû aller. Comme ça, ça fait un peu plus réel, puisque on a vraiment l'impression d'être à Rome. D'ailleurs, il y a une guide italienne qui nous a parlé. On entend même une personne qui parle en latin, du coup... ça rend un peu la bande annonce un peu plus réelle.
Mmh. Tanguy, comment ont réagi les gens que vous êtes allé enregistrer justement à Rome ? Quel effet ça fait d'aller enregistrer des gens ?
Pas grand-chose en fait, puisque ils étaient souvent étrangers, donc ils ne comprenaient pas toujours ce qu'on disait.
Donc vous faites ce que vous voulez avec ces voix-là, parce que de toute façon, ils n'entendront jamais non plus.
Oui, c'est ça.
Voilà, bien entendu. C'est une vision de la composition et on remarque donc l'enseignement de Sébastien Béranger à travers cette éthique à l'égard du son et de l'enregistrement. Merci beaucoup d'être venu ici, d'avoir partagé avec nous cette romantique. Et bravo donc pour ce prix Radio Oratorio. Alors on passe au troisième temps de cette émission, au troisième lauréat avec le lycée Jean Villard de Meaux. Je vais demander à Laurence Boucard de venir s'installer à la table compositrice qui a accompagné une classe, ses premières du lycée Jean Villard de Meaux, qui est aussi en Seine-et-Marne, comme le collège de Avon qu'on vient d'entendre. Souvenirs intimes, qui est très lié. Antoine Mignon peut venir aussi, qui est l'enseignant, professeur de musique, qui a accompagné ces classes. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Souvenirs intimes, c'est quelque chose qui est très lié à Meaux, à la géographie et à l'histoire de Meaux, si je ne me trompe pas.
Voilà, exactement. C'est le projet qu'on avait proposé. On a la chance d'être dans une ville qui a effectivement une histoire assez importante, une histoire qui est symbolisée aujourd'hui par deux bâtiments, deux lieux emblématiques qui sont, pour l'histoire ancienne, la cathédrale, pour l'histoire plus moderne, le musée de la Grande Guerre. Et c'est vrai que on est parti de ces deux lieux pour faire réfléchir les élèves et puis pour les faire réfléchir d'un point de vue sonore aussi. Et vous entendrez des éléments qui sont directement tirés de ces lieux et de ces histoires.
Je pense qu'il ne faut pas tout dévoiler là.
Mais je n'en dirai pas plus.
Voilà. Laurence Boucard, vous êtes compositrice, on connaît votre nom à France Culture. Il n'y a encore pas très longtemps, quelques mois, il y a eu un Création Air sur cette antenne que vous avez signée. Peut-être dire un petit mot de l'instrumentarium, les instruments dont certains sont posés là devant nous. C'est quoi les instruments de cette pièce qu'on va entendre?
Alors on a des instruments acoustiques qui sont très, très répandus. On a deux violons, on a une guitare acoustique. On a un ukulélé assez particulier parce que la caisse de résonance est faite avec un vieux casque à pointe. On a après une batterie aussi. Et on a quelques instruments amplifiés, une guitare électrique, un clavier. Et je garde le meilleur pour la fin. On a des iPads et des iPhones qu'on a détournés parce que...
Parce que c'est fait pour.
Parce que notre histoire, notre musique qui s'appelle musique électroacoustique, c'est une histoire de détournement.
J'ai un titre, Souvenirs intimes, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Souvenirs intimes. Je vous propose de vous mettre en place pour qu'on entende cette pièce, donc, troisième lauréat ce soir. Il n'y a pas de hiérarchie, hein, 1, 2, 3, mais tout le monde à égalité, troisième lauréat du prix Radio Rattorio, troisième concours d'art radiophonique de création à l'usage des collégiens et des lycéens et leurs enseignants, en l'occurrence donc, les premières du lycée Jean Villard de Meaux. Souvenirs intimes.
Son corps, 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 son Jeudi 17 mai 1917. Pauvre agneau. Tu me vois couché, les yeux clos, et c'est une épouvante. Et moi, j'ai peur de mourir.
Tranchée Palace, le 14 décembre 1914. La suggestion chers parents, et constante. Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Moi-même, je n'aurais pas cru si je n'avais pas
une idée. La guerre semble autre chose. Voilà, et bien, c'est encore évacué aujourd'hui pour que je les
avant-hier,
quand le mien, ils ne veulent pas jouer malheureusement. Car je voudrais bien une évacuation aussi. Il n'y fait pas de mention à rien. Vous le savez,
non, je ne crois pas que je meurs. Je ne pas moi.
C'est loin de marcher comme si on avait fait.
Voilà comment on fait. C'est ça pour la fête. Non, bah,
dans mes draps de mort, j'entendais ta plainte et ton âme expirer.
Ils sont au lycée Jean Villard de Meaux et ils viennent de nous proposer Souvenirs intimes. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Ils sont une vingtaine sur la scène du studio 106 avec une multitude d'instruments et puis les voix aussi. Hein. C'était des choristes. Venez, j'ai demandé à Antoine Mignon et à Laurence Boucard de nous rejoindre. Puis il y a peut-être quelqu'un, une représentante, oui, du chœur ou des instruments de cet ensemble, de ces souvenirs intimes qui peut s'asseoir avec nous autour de la table. J'ai aussi demandé à Wilfried Wendling, peut-être au directeur de la mise en circuit, de nous rejoindre. On conclura l'émission avec lui. Mais avant ça, peut-être faire un retour sur ces souvenirs intimes, qui sont les souvenirs intimes, on l'a compris, de la Première Guerre mondiale. C'était aussi ça, ces souvenirs intimes, des souvenirs de la guerre. Il y a eu des recueils. Comment la matière a-t-elle été cherchée? La matière d'abord de ces voix, on imagine des lettres. Comment cette matière est arrivée? Je vais vous poser la question à vous. C'est quoi votre prénom?
Océane.
Dans le micro.
Mes camarades ont cherché dans un bouquin qui parlait de la guerre.
Ouais.
Et puis ils ont tiré des extraits qu'il y avait dedans. Et puis ils ont cherché aussi de nombreux textes sur Internet aussi. Puis Monsieur Mignon a choisi quelques-uns des textes pour qu'il puisse les réciter après. Puis après on l'a modifié et c'est là qu'est venue l'idée.
Voilà, il y a un véritable travail de composition du texte en fait. On peut parler de ça, de composition avec le texte. Il y a même un canon de lettres d'une certaine manière à un moment donné, non ?
Oui, exactement. Ce qui était important, c'était de ce qu'on a voulu avec Laurence, c'est que au maximum, ce soit leur choix, leur composition. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où il faut trancher, et on était là aussi pour trancher parfois. Mais tout le début de cette aventure a été, on a pris le temps d'errer un petit peu dans toutes les idées qui venaient de droite, de gauche, et pour leur montrer que c'est aussi ça la composition. Et là, Laurence pourra en parler mieux que moi. Composer, c'est choisir finalement ce que des idées. C'est commun à tous les groupes qu'on a entendus aujourd'hui. Les idées finissent toujours par arriver, par émerger. Mais après, il faut choisir, n'est-ce pas, Laurence?
Laurence Boucard.
Oui, j'ai essayé de leur faire un travail d'expérimentation parce que je trouvais que ça valait le coup et que c'était une aventure intéressante. Donc, il y a eu effectivement une phase de prise de son parce que ça fait partie des classiques et des incontournables. Donc ils sont venus avec des prises de son, on a un peu fait de travail informatique et puis après on a expérimenté plein de choses, on a essayé, on a gardé, on a jeté et voilà.
C'est une classe musicale au départ, faut le dire, non? Une option musique? Oui, oui, on me dit oui, on me fait signe de la tête, on me confirme. Quel est votre prénom?
Rachel.
Rachel, cette année-là justement de composition particulière, électroacoustique, ou croisée en termes de genre musical et sonore, qu'est-ce qui vous a marqué vous dans cette année-là?
C'est surtout les nombreuses heures de travail sur tous les morceaux composés. On a travaillé avec différents types de sons. Des sons de la vraie vie, mais aussi des sons sortis des iPods et des iPhones.
Voilà, et puis des instruments acoustiques aussi, donc on l'a dit, qui étaient là. Donc c'est aussi ces différentes matières qui font la densité de ces souvenirs intimes. Alors, Wilfried Wendling, voilà, vous êtes là, est-ce que vous vous approchez de la table? Vous êtes le directeur de la Muse en circuit, donc cette muse qui a présidé à ce concours radio-oratorio qui a lieu tous les deux ans, la Muse en circuit, Centre national de création musicale. C'est bien un soir comme celui-ci, parce que après...
C'est absolument formidable, merci beaucoup.
De rien, mais merci à vous, parce que c'est vous qui organisez ça. Est-ce que ça pourrait pas exister pour toute la France? Parce qu'on est sur une antenne nationale. On l'a compris, c'est un concours qui est ouvert aux académies d'Île-de-France. On pourrait imaginer un radio-oratorio national.
Pour nous, il n'y a aucun problème.
Ouais.
Si c'est d'accord pour vous, alors c'est parti.
Ah ouais, c'est pas d'accord pour nous. J'imagine qu'il y a d'autres partenaires,
sûr,
il y en a beaucoup,
et
ils sont
raison.
Dans la salle aussi.
Vous avez absolument raison, parce que c'est effectivement une entreprise qui est absolument formidable. Merci et bravo aussi à tous ces jeunes personnes tous ceux qui les ont encadrés, d'avoir permis effectivement ce type d'expérience-là. C'est riche de plein de points de vue, du point de vue sonore et musical, l'enrichissement effectivement de la diversité esthétique, sur le point de vue politique aussi, on l'a vu aussi, ouais. Parce que faire les choses autrement, c'est aussi une dimension politique qui est absolument majeure aujourd'hui, à l'endroit où on est formaté effectivement sur les, à la fois du point de vue musical et du format du point de vue de la pensée. Donc c'est à plein d'endroits, je trouve que c'est absolument extraordinaire, et évidemment que ça devrait être étendu, démultiplié, y compris sur le réseau national, puisqu'on a un réseau national de CNCM.
Il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que, alors, il s'agit d'apprendre le rapport au son, la composition différente. Effectivement, comme vous dites, Wilfried Wendling, sortir de certaines normes, mais c'est aussi tout simplement apprendre à écouter et à s'écouter les uns les autres. On a retrouvé ça aussi dans les trois pièces qu'on a écoutées ce soir.
Absolument. Alors, c'est vrai que la question du hors-spiel est toujours, offre toujours de larges débats. C'est une dimension que vous connaissez bien, parce que vous avez souvent traité de Luc Ferrari. Et c'est vrai que c'est, le hors-spiel est par nature une forme qui se définit mal. Et c'est ce qui lui donne justement toute sa dimension de liberté, parce que grâce à ça, on peut développer plein de formats musicaux qui sont nouveaux, autres, différents. Et donc, ce qu'on a voulu ajouter, mais ce qui vient aussi de l'héritage ferrarien, c'est la question du hors-spiel scénique. Alors, le hors-spiel scénique, je saurais pas très bien le définir. C'est peut-être une espèce d'opéra débarrassée du lyrique, ou de quelque chose comme ça qui englobe un peu toutes les dimensions du spectacle vivant. Et en même temps, avec toujours cette prédominance de la question du sonore, mais au sens large. C'est-à-dire que la radio, c'est pas uniquement la question de la musique, c'est aussi la question de la circonstance. On entend la radio à plein d'endroits différents. Est-ce que c'est une question de direct? Pas toujours. C'est la question de l'enregistré, du live, de ce qui est présent, de ce qui est absent. C'est un tas de questions qui sont à la fois musicales et quasiment philosophiques. Donc avoir effectivement ce hors-spiel scénique, c'est à la fois renouer avec l'héritage ferrarien, et puis c'est donner aussi à tous les participants une occasion de travailler avec une autre dimension du musical, qui est la dimension du partage en fait, et de l'interprétation partagée.
Merci beaucoup d'avoir conclu l'émission. Merci à tous, merci à vous d'avoir été là.
Merci
pour
beaucoup.
Cette restitution dans le réel de l'émission dans Supersonique. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin donc de cette émission très spéciale. Pour aller plus loin évidemment, pour réécouter, pour commenter, pour podcaster, rendez-vous sur franceculture.fr. Et merci aux classes donc du collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne, du collège de la Vallée à Avon et du lycée Jean Villard à Meaux. Merci aux équipes de la Maison de la Radio et particulièrement à Véronique Barros, Damien Terrier, Marina Cichanteau et à la mise en circuit bien entendu. Les équipes techniques ce soir au studio 106, c'était Bruno Mourlan, Dalia et Stéphane Touvenin. À la préparation, à la coordination bien sûr, Inès De Bruyne, et à la réalisation, Véronique Amandour. Et dans un instant, vous retrouvez les nuits de France Culture. Nous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.